Chapitre 103. En montant s'installer au sommet d'un éperon rocheux, Henri s'est assuré une large vue d'ensemble sur le donjon et la caverne. Assis en surplomb, les jambes pendantes, il cogite. Le roulement de la cascade tourne dans l'espace. Vincent grimpe à son tour pour le rejoindre. « Lorsque je me trouvais seul ici, confie-t-il au garçon, j'avais choisi exactement le même poste d'observation. » Comme si le clou avait attendu sa visite, il l'interroge directement, prolongeant la réflexion qu'il a jusque-là menée intérieurement. « Le tunnel dans lequel nous avons eu si peur menait à la crypte avec le puits, c'est ça ?»« Effectivement. » »« Tu sais, je ne suis pas sûr que ceux qui ont créé les pièges auxquels nous nous sommes frottés se soient donné autant de mal pour une tombe. Ils devaient plutôt venir ici comme dans une sorte de coffre-fort, chaque fois qu'ils en avaient besoin et en toute sécurité. Dans ce cas-là, les mécanismes et les galeries dissimulées seraient logiques. Je suis prêt à parier que pour pénétrer dans cette tour, il existe une entrée secrète. Je partage ton avis, mais comment la trouver? J'essaie de me servir des règles que tu m'as apprises, mais ce n'est pas évident. Le meilleur des passages est celui dont on ne soupçonne pas l'existence. C'était vrai dans la cave, et même dans la crypte, mais ici c'est différent. Face à ce château aveugle et fermé, on soupçonne forcément qu'il y a une ouverture. Vincent laisse le clou suivre son raisonnement sans l'interrompre. Le garçon poursuit. Un bon passage doit jouer avec les illusions de celui qui regarde. Dans cette salle souterraine, on ne voit rien d'autre que de la pierre taillée ou de la roche abrupte. Du sol à la voûte. Quel que soit l'endroit où l'on pose les yeux, on est tenté de se dire qu'il sera absolument impossible de passer au travers. Pourtant, quelque part, cela doit être faisable, c'est certain. Autant dire que l'entrée peut se situer n'importe où. Vincent sourit. Henri enchaîne. Le troisième principe m'a donné des idées. Le déclenchement doit toujours s'effectuer par un moyen inattendu. J'ai cherché du côté des lampes à huile, derrière les rochers. J'ai même retourné quantité de pierres, mais je n'ai rien trouvé qui puisse faire office de déclencheur. Le clou se tourne vers Vincent. Tu ne m'as jamais confié les deux dernières règles. C'est le moment ou jamais, non? Écoute-moi bien. Règle numéro 4. Les énergies qui assurent le mouvement du mécanisme d'un passage doivent être intemporelles. C'est-à-dire? Ne doivent être utilisées que des forces dont la valeur ne varie pas au fil du temps. Un ressort, deux éléments en équilibre, un contrepoids soumis à la gravité, autant d'éléments qui doivent pouvoir rester en suspens indéfiniment, prêts à être déclenchés, même si le passage n'est pas ouvert, durant très longtemps. Pendant des dizaines d'années? Des siècles, s'il le faut. Henri se demande déjà quelle énergie pourrait attendre tapis derrière la muraille. Et la dernière règle? Elle va te sembler évidente, mais méfie-toi, elle est plus complexe qu'il n'y paraît, et j'avoue qu'elle m'a beaucoup occupé l'esprit ici. Règle numéro 5. Le fonctionnement d'un passage doit être réversible, sinon ce n'est pas un passage. L'expression perplexe qu'arbore le clou incite Cavell à éclaircir son propos. Tu l'as dit toi-même. Ceux qui ont conçu ce lieu devaient pouvoir s'y rendre chaque fois qu'ils en avaient besoin. Toutes les étapes à franchir pour y accéder peuvent donc s'ouvrir et se refermer autant de fois que nécessaire. En d'autres termes, si nous parvenons à entrer dans cette tour, elle ne pourra pas rester béante après notre visite. Tu me suis ? Henri hoche la tête, mais sans conviction. Vincent précise. D'accord. Essayons le contre-exemple. Laisse-moi te présenter un type d'accès secret qui n'est pas un passage. Celui des tombes antiques de la Vallée des Rois cartographiées par Bonaparte. Les blocs qui en scellaient le seuil prenaient leur place grâce à un savant écoulement de sable contenu dans des poteries dont l'extrémité était brisée le moment venu. Le processus ne pouvait être actionné qu'une seule fois. Le déclenchement était irréversible. Une fois positionné, il n'était plus possible de les déplacer autrement qu'en les détruisant. Henri commence à comprendre, mais s'apprête à poser une question lorsqu'une voix les interpelle. Tous deux tournent la tête. Conrad est au pied du rocher, ses mains en porte-voix pour se faire entendre par-dessus le bruit de la cascade.
« Vous devriez rappliquer, on a trouvé quelque chose de bizarre !»